Il est 9h sur Radio G.
11 septembre au 6 octobre, en partenariat avec RFI.
Et vous écoutez Radio France Internationale, 9h à Paris, 8h du matin à Rabat.
Jeanne Bartoli.
Et dans ce journal, un verdict qui divise le Maroc. La journaliste Aja Raissouni écope d'un an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Son gynécologue et son fiancé sont également condamnés. Nous serons avec Théa Olivier sur place dans un instant. Une démonstration de force ce matin en plein cœur de Pékin. Défilé militaire pharaonique pour les 70 ans de la République populaire de Chine. Le président Xi Jinping a évoqué Hong Kong et promis de respecter le principe d'un pays pour deux systèmes. Aujourd'hui, des manifestations sont prévues dans le territoire. L'actualité, c'est aussi la crise politique qui s'aggrave au Pérou. Le Parlement a été dissous par le président. Les députés ont voté dans la foulée la suspension du chef de l'État. Nous serons également en direct de Rouen, où Édouard Philippe a tenté hier de rassurer la population qui s'inquiète de la pollution après l'incendie survenu jeudi dernier à l'usine Lubrizol et puis la disparition d'un très grand nom de la musique. La cantatrice américaine Jessie Norman est décédée hier à l'âge de 74. Son procès avait été reporté au 30 septembre et il faisait l'objet depuis des semaines d'une violente polémique au Maroc. Le tribunal de Rabat a finalement condamné hier la journaliste Aja Raissouni à un an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Son gynécologue écope de deux ans de prison ferme, son fiancé d'un an ferme. Théa Olivier, vous êtes notre correspondante au Maroc. On le disait, le procès est au cœur d'une polémique. L'annonce du verdict a d'ailleurs été suivie par de vives réactions de la part des proches de la journaliste.
Oui, il faut dire déjà que le verdict est tombé après 6 heures d'attente. Les proches et les militants des droits humains qui étaient présents dans la salle d'audience ont attendu la mine grave et le regard anxieux. Une fois le verdict annoncé, certains ont fondu en larmes, d'autres ont crié le nom de Hajar, les bras tendus et les doigts en V. Alors la jeune journaliste de 28 ans a repris le même signe à sa sortie du tribunal, entre la petite porte et le véhicule des forces de l'ordre, un signe qu'elle a adressé à ses proches et aux journalistes de l'autre côté du grillage qui a été capturé par des photos. Depuis, la photo de Hajar Raissouni, grand sourire avec son fiancé derrière, menotté et les mains levées en signe de résistance, fait le tour des réseaux sociaux. Sur Internet, les Marocains étaient sous le choc. Hier soir, ils ont exprimé leur soutien. Mais devant le tribunal, aucune manifestation de solidarité ne s'est mobilisée. Pourtant, l'affaire, comme vous le dites, fait polémique au Maroc. Ses proches et ses avocats dénoncent un procès politique lié à sa famille, à ses opinions et au journal dans lequel elle travaille. Le collectif des 490 hors la loi a aussi publié un communiqué dès hier soir, alors qu'il n'était pas officiellement présent pendant le procès. Il dénonce une situation d'hypocrisie où l'application de lois pénalisant les relations sexuelles hors mariage et l'avortement ne répond qu'à la logique de l'arbitraire. Il répète aussi la demande d'abrogation de ces lois jugées liberticides. En attendant, la défense a déjà prévu de faire appel.
Théa Olivier, selon ses proches, donc Aja Raissouni va donc faire appel de sa condamnation. Toutes nos excuses pour la qualité de la ligne un peu compliquée avec le Maroc. C'était il y a 70 ans, Mao Tse-tung proclamait la République populaire de Chine. Des commémorations ont lieu aujourd'hui. Elles ont commencé avec le discours de Xi Jinping. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation, a notamment déclaré le président chinois. Un discours suivi d'une immense parade militaire dans Pékin. Stéphane Lagarde, vous êtes sur place. 15 000 soldats ont défilé. L'armée chinoise qui a dévoilé des équipements dernier cri.
Oui, une démonstration de force avec tout un dispositif quasi chorégraphique pour en mettre plein la vue, et j'allais dire plein les oreilles, des micros rasants sur les bottes des soldats. On en de bruit de bottes ce matin, avec l'impression parfois d'avoir un rugissement de fourmis dans les tympans pour démontrer encore une fois la toute-puissance chinoise. Avec évidemment aussi, au-dessus du gigantesque portrait de Mao, son successeur Xi Jinping, qui est apparu en veste noire, presque à la Mao, et qui a fait un tour dans sa drapeau rouge, hein, dans sa limousine, pour saluer les soldats, tous les corps d'armée, les marins, l'armée de l'air, les bérets bleus de l'ONU, et également les femmes soldates, elles aussi appelées par leur corps, et qui ont répondu par des cris perçants « Nous nous soumettons à la direction du parti ». Alors évidemment, on a guetté effectivement ces nouveaux missiles, les drones, ils sont apparus, mais au-delà de ça, il y avait presque un côté vintage dans cette parade, beaucoup d'allusions à 1949, des films en noir et blanc sur écran géant, rappelant l'action de Mao Tse-tung, et un défilé qui s'est terminé, comme dans les années 60, avec des chorégraphies de masse, et notamment la danse du foulard rouge qui était célèbre à cette époque. Donc vraiment une référence à cette période de l'histoire.
Stéphane Lagarde en ligne depuis Pékin, et le président chinois Xi Jinping a fait allusion dans son discours ce matin à la situation à Hong Kong. Il a réitéré officiellement son intention de respecter le principe d'équilibre entre Pékin et Hong Kong, un principe connu sous le nom d'un pays, deux systèmes. Aujourd'hui, les manifestants hongkongais ont appelé à se mobiliser malgré l'interdiction. Une demi-douzaine de rassemblements sont prévus. Donald Trump a-t-il fait pression sur le Premier ministre australien pour discréditer l'enquête du procureur Robert Mueller sur les ingérences russes? Les méthodes du président américain sont à nouveau dans le viseur, cette fois de la presse, avec ces nouvelles révélations du New York Times. Selon le journal, Donald Trump aurait demandé à Scott Morrison d'aider son ministre à la justice à rassembler des éléments dans le but de discréditer donc l'enquête de Robert Mueller. Au Pérou, la crise politique entre le chef de l'État et l'opposition fujimoriste s'aggrave hier, alors que les parlementaires s'apprêtaient à voter la confiance au président. Ce dernier a décidé de dissoudre le Congrès et de convoquer de nouvelles élections législatives. Dans la foulée, le président péruvien Martin Vizcarra a été suspendu pour incapacité temporaire par le Congrès. La crise politique atteint donc de nouveaux sommets dans le pays où deux présidents revendiquent le pouvoir. La correspondance d'Éric Sanson. Éric Sanson, qu'on retrouvera peut-être dans quelques instants. En attendant, 9 heures passées de 6 minutes en Syrie. C'est un poste frontière crucial pour le commerce entre l'Irak et la Syrie et l'unique point de passage ouvert entre les deux pays. Le poste de Boukamal a rouvert hier. Il était aux mains du groupe État islamique entre 2014 et 2017. Ce point de passage devrait notamment permettre à l'Iran, présent dans la région et soumis à de fortes sanctions américaines, d'écouler ses produits plus facilement. En Afghanistan, deux jours après l'élection présidentielle, le candidat Abdullah Abdullah, actuel chef de l'exécutif, revendique la victoire. Les résultats préliminaires ne sont pas attendus avant le 19 octobre. Les précisions de Sonia Ghezali.
Les bulletins de vote n'ont pas encore été comptabilisés. Le dépouillement est loin d'être achevé, mais le candidat Abdullah Abdullah, le chef de l'exécutif, semble déjà connaître les résultats.
Nous avons le plus grand nombre de voix dans cette élection et quand tous les votes frauduleux seront mis de côté, nos résultats seront encore plus élevés.
Le jour précédent, le colistier du président Ashraf Ghani, candidat à sa propre réélection, déclarait aux médias, je cite, « 60 à 70 % des gens ont voté pour notre équipe ». La commission électorale indépendante a fait un rappel à l'ordre, déclarant qu'aucun candidat n'avait le droit de se proclamer vainqueur. Les résultats préliminaires seront annoncés le 19 octobre, les définitifs le 7 novembre. Le politologue Haroun Mir qualifie ces déclarations de grave erreur politique qui va à l'encontre de la démocratie. L'histoire semble se répéter. En 2014, les deux rivaux dans les urnes se déclaraient également vainqueurs de la présidentielle. Il avait fallu l'intervention de John Kerry, le secrétaire d'État américain, pour mettre fin à la crise post-électorale avec la création d'un gouvernement d'unité nationale et du poste de chef de l'exécutif pour Abdullah Abdullah. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Le dernier adieu de la France, mais aussi du monde, à Jacques Chirac. L'ancien président a été enterré hier au cimetière du Montparnasse. 80 personnalités étrangères ont assisté à la cérémonie religieuse en l'église Saint-Sulpice. Parmi eux, notamment Vladimir Poutine, Bill Clinton, Denis Sassou Nguesso et Saad Hariri. Avant la cérémonie, un hommage militaire avait été rendu à Jacques Chirac à l'hôtel des Invalides. Édouard Philippe était hier en déplacement à Rouen. Il a tenté hier soir de rassurer la population qui s'inquiète de la pollution après l'incendie survenu jeudi dernier dans l'usine Lubrizol. On retrouve sur place David Bachet. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors les propos d'Édouard Philippe n'ont pas vraiment rassuré les habitants.
Ah, c'est sûr, on est loin de la sérénité. Hein. C'est simple, il n'y a pas une personne que j'ai interrogée qui se soit dit rassurée. Alors, ce n'est pas la psychose non plus. Hier, les terrasses étaient pleines. Ce matin, j'ai vu des dizaines d'enfants aller à l'école. Mais malgré tout, dans tous les esprits, le doute subsiste et l'inquiétude qui va avec. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui était donc à Rouen hier soir, a encore une fois affirmé qu'il n'y avait pas de danger, que les odeurs qui persistent dans la ville, surtout dans certains quartiers, étaient certes gênantes, mais qu'elles n'étaient pas nocives. Eh bien, c'est ce que personne ici ne comprend. Le raisonnement général, hein, c'est en substance, puisqu'on sent quelque chose, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la liste des produits qui sont partis en fumée, des produits détergents, des hydrocarbures, eh bien, on peut difficilement faire pire, d'autant qu'on n'a pas la liste exhaustive de tous ces produits. Ça aussi, ça avive le doute, surtout que certains continuent, 5 jours après l'incendie, de se plaindre de nausées et de maux de tête.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Les blogueurs de la Tribune Libre sont une bande d'amis qui, dans les années 1931 à 1933, à Angers, décidaient ensemble d'un sujet de réflexion. Pas d'internet, évidemment, à l'époque. Aussi remplissaient-ils de leurs propos un cahier, la Tribune Libre, qui restait entreposé au café du Welcome en centre-ville. Sous les pseudonymes de Feu Follet, Mécano, Moustique, Cabri, Acerbe, ils débattaient de sujets parfois sérieux et encore actuels, comme celui-ci. De quoi demain sera-t-il fait ? Collaboration ou lutte des classes, collectivisme ou individualisme ? Faut-il faire la journée de 8 heures ininterrompue ? Et parfois, des questions culturelles comme les suivantes. Le théâtre est-il mort ? Le cinéma le tuera-t-il ? Ou encore, l'art doit-il s'adresser à la masse ou à quelques initiés ? À l'heure de la réflexion sur l'état du monde et le droit du travail, qu'en pensaient certaines personnes de la génération des années 30 ?
On voit comme sur un écran des profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frisa les chapeaux pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur. Oui, mais la guinguette a fermé ses volets.
De quoi demain sera-t-il fait ? Victor Hugo s'est posé cette question dans une de ses célèbres poésies, sans pouvoir la résoudre. Nous ne pourrions que suivre ce grand maître. Oui, il faut faire la journée de 8 heures ininterrompue, à condition qu'elle soit étendue à toutes les classes de la société, même les plus élevées.
Qu'en sais-je ? Sans doute des tentatives de l'une et de l'autre, comme à présent. La première serait certes à désirer, mais n'est-ce pas une chimère ? Je ne crois pas qu'un même genre de travail puisse soutenir 8 heures consécutives. Pour mon compte, je n'y souscris pas, étant Feu Follet.
De quoi demain sera fait ? De ce qui fut hier et de ce qu'est aujourd'hui ? La lutte des passions et la satisfaction des appétits ? 8 heures ininterrompues, hélas. D'où est née la fameuse journée de 8 heures ? De ce qu'on prétendait ne pouvoir faire 10 heures en 2 étapes, c'est-à-dire 5 heures de travail consécutives. Et puis, à quoi occuperait-on le reste du temps ?
De quoi demain sera-t-il fait ? De petits avions, de ballonnets, qui resteront individualistes, malgré les dirigeables collectivistes. 8 heures sans cesser? Vous voulez nous crever?
Les temps que nous vivons sont trop troubles pour qu'on puisse en dégager une formule pour demain. D'ailleurs, l'avenir d'un peuple ne peut tenir tout entier dans une formule. Et je crois qu'il faudrait surtout chercher un équilibre. Collaboration me semblerait plus enviable. Le capital sera toujours réparti d'une façon inégale, ainsi que l'intelligence, le savoir, etc. Ce n'est donc qu'à l'aide d'une collaboration juste qu'il serait possible d'envisager un avenir plus heureux. Mais est-ce que ce ne sera pas longtemps de l'utopie ? Je suis partisante des 8 heures consécutives, mais je crois que cette loi ne serait applicable que dans les travaux manuels. Là, un long repos serait tout à fait salutaire. Mais chez les travailleurs intellectuels, un repos coupant les heures de travail est indispensable. Vous seriez si embarrassé pour occuper vos heures de loisirs, Acerbe ? Rien que pour avoir des heures bien à moi, je voterai cette loi.
Pourquoi s'inquiéter de demain quand aujourd'hui suffit à remplir notre pensée ? Vivons l'heure présente et n'anticipons pas sur l'avenir. 8 heures consécutives ! L'auteur de cette géniale idée doit être celui qui nous a dit « Le travail, c'est la liberté ». Absolument irréalisable ce projet pour les travailleurs intellectuels.
De quoi demain sera fait ? La collaboration des classes serait à souhaiter, mais il est impossible que cela soit. Comme toujours ayant leur point de vue personnel, les hommes se déchireront entre eux, puisqu'hélas aucun idéal n'est assez fort pour faire disparaître leurs ambitions. Lutte continuelle accompagnée quelquefois d'éclaircies. La journée de 8 heures, pour ceux qui travaillent manuellement, c'est amplement suffisant. Pour les intellectuels qui ont le bonheur de toujours apprendre, la journée peut être plus longue.
Peut-être plus de collaboration, et je le souhaite, mais qui peut savoir? Il y aurait beaucoup à dire dans cette question. À mon avis, l'idéal serait justement d'abolir cette lutte des classes, tout en restant, cependant, chacun à sa place. Pour que la vie continue normalement, il faut bien des différences de situation, fortune, intelligence, etc. Mais pour qu'elle soit plus belle, il faudrait plus de compréhension, moins de mépris et de hauteur d'une part, moins de méfiance d'autre part. Mais est-ce possible ? 8 heures de travail quotidien ? Bien des inconvénients à ce système. Inconvénients pour le patron ? Le travail de la 8e heure ne vaudra certainement pas le travail de la 4e, par exemple. Inconvénient pour l'ouvrier, qui finit par trouver fastidieux, à la fin des 8 heures, ce qu'il faisait avec plaisir au début. Un arrêt entre les heures de travail ne peut être que profitable à tous. Et puis, pour quelques-uns qui sauront bien employer leurs heures de liberté, combien d'autres les gâcheront ? Il est bien difficile de généraliser, mais dans l'ensemble, je préfère les 8 heures de travail non continues.
Collaboration des classes, collectivisme, irréalisable, je crois. L'orgueil des uns, la fortune des autres, l'envie, que sais-je encore, seront autant de raisons qui l'empêcheront toujours. 8 heures consécutives seraient peut-être possibles pour certains, mais la méthode ne me paraît pas applicable pour la généralité. Quel cran faudrait-il à beaucoup ?
Ayez pitié d'un pauvre célibataire. Songez que, si les restaurants font les 8 heures consécutives, en même temps que moi, je n'arriverai pas à serrer suffisamment ma ceinture.
8 heures de travail constant et égal. Impossible, je crois. Le travail a besoin d'être coupé de repos plus ou moins long, pour ne pas devenir un abrutissement.
Les célibataires étant l'espoir de la France de demain, soyez assurés, Bob, que la question des restaurants ne sera pas résolue sans que vous ayez donné votre avis. Que deviendrait la tribune ? Nous avons déjà des étudiants décharnés. Nous ne voulons pas que vous deveniez ainsi.
Que voulez-vous dire, Kenavo ? Les célibataires étant l'espoir de la France de demain ?
Vous croyez donc qu'ils ont plus d'enfants que les gens mariés ?
Votre désir de lire ce qui n'est même pas pensé vous fait manquer de logique, sans souci. Parler d'espoir, c'est penser à ce qui n'existe pas encore. Votre réflexion n'est donc pas très judicieuse.
Je pense que la collaboration des classes est une utopie. L'homme de notre siècle n'est-il pas trop égoïste et trop ambitieux pour tendre la main à ses inférieurs ? La journée de 8 heures ininterrompue ? Mais c'est impossible, il me semble, autant pour les métiers manuels que pour les intellectuels. Autant devenir machine, alors.
Ce groupe de jeunes gens était issu de la classe moyenne et bénéficiait de certains loisirs. Ainsi, l'arrivée du cinéma parlant engendre cette question. Le théâtre est-il mort ? Le cinéma la tuera-t-il ?
Voici celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en deux mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre. Voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Sarah Bernhardt. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice, absolument géniale. Je dirais même plus, géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul
hôtel. La grande illusion, avec Jean Gabin. Dita Parlo.
Le café est prêt.
Pierre Freinet.
D'un côté, des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre, des soldats qui jouent comme des enfants.
Et Eric von Stroheim.
Bien.
Il est allé jusque chez les Peaux-Rouges.
Carré. Il jouait devant eux en plein air, et chaque fois qu'il la trouvait particulièrement admirable, il tirait des coups de feu en signe d'allégresse.
Elle a vu tant de gens à ses pieds, elle a reçu tant d'hommages que rien n'aurait pu la surprendre. Et un jour qu'elle partait pour sa propriété de Belle-Île, rencontrant sur le quai de la gare le préfet de police qui lui-même allait à la campagne, elle lui dit « Merci de vous être dérangé. » Voici un livre de Victor Hugo, dédicacé à elle. En termes éloquents, à une reine dont j'eusse voulu être le Ruby Blas. Et voici précisément la couronne qu'elle portait dans Ruby Blas. Elle avait parfois des mots cruels.
Le cinéma est à peine né, on l'accuse de vouloir tuer ce monsieur encore vert qu'est le théâtre. Il est vrai qu'il lui prend le meilleur de son sang comme le pélican. Le théâtre a ouvert ses entrailles pour nourrir ce fils affamé, mais le jour est proche où le cinéma dira « Eh, quoi, encore des dupés ?» Il y a un snobisme anti-théâtre, comme si le cinéma pouvait tuer le théâtre. Le théâtre crée des personnages, il a des idées, il a des costumes. Le théâtre vit du costume. Il faut laisser le théâtre tel qu'il est et ne pas faire du théâtre un sous-produit du cinéma comme on a fait du cinéma un sous-produit du théâtre. Ce qui est grave, c'est que le public n'a plus de talent.
Il est impossible que le théâtre meure. Pour ma part personnelle, j'ai horreur du cinéma. Car les personnages sur l'écran ne pourront jamais faire voir leur état d'âme. Ou alors les contorsions de leur visage pour mimer la souffrance me donnent une envie folle de rire. Non, le cinéma rendra très bien une pièce où il y a beaucoup d'action, de mouvement, mais jamais il ne pourra donner à l'âme une impression profonde devant l'expression d'une douleur vraie, bien rendue par le personnage. Il faut quelqu'un de vivant devant soi pour sentir la douleur vivante. Même le cinéma parlant ne fera jamais cela. Tout porte à la vraisemblance, au fictif au cinéma, avec sa musique en conserve.
Non, le théâtre n'est pas mort, mais il est bien malade. Les causes, pauvreté en général des pièces nouvelles, cachet des artistes bien inférieurs à ceux donnés par le cinéma, et surtout, concurrence énorme de ce dernier, qui attire à lui non seulement la masse, mais les artistes qu'il rémunère mieux, et les auteurs dont l'œuvre sera beaucoup mieux connue si elle passe au cinéma que si elle passe au théâtre. Toutefois, je ne crois pas que le cinéma tuera le théâtre. Le théâtre garde ses fidèles, et l'engouement du public pour le cinéma cessera. À mon avis, ce sont deux arts bien différents qui pourront vivre côte à côte sans se nuire lorsque le plus jeune aura vieilli et sera plus au point, et que le plus vieux, gardant les beautés acquises, rajeunira en ajoutant à sa collection de jolies œuvres modernes.
S'il est mort, le cinéma n'y peut rien. À mon avis, il ne mourra jamais. Jamais un film, malgré tous ses décors, si souvent truqués, ne pourra entrer en lutte avec des artistes vibrants qui sauront toujours émouvoir mieux qu'un défilé d'images.
Théâtre ou cinéma, les deux me plaisent également. La concurrence loyale qu'ils se font, au lieu de me chagriner, me réjouit au contraire. Car loin de les faire disparaître, elle ne peut que les inciter, chacun dans son genre, à se perfectionner. Soyez franche, Fanny, et avouez en toute simplicité que vous n'avez jamais mis les pieds au cinéma. Je n'en prends comme preuve, entre mille, que celle de votre homonyme. Voyez-la au théâtre et au ciné, et après vous pourrez discuter.
Le théâtre a dans le cinéma un concurrent sérieux, qui prend dans la diversité et la richesse de ses décors, souvent naturels, une grande partie de son avantage. Le théâtre, par ses acteurs vivants et son orchestre surtout, gardera ses partisans et c'est heureux.
Pas assez documenté pour donner une opinion personnelle. Je souscris aux opinions de Cabri et de Bob.
Pourquoi toujours vouloir comparer le théâtre et le cinéma? Ils peuvent bien vivre tous les deux. Le théâtre souffre peut-être du succès du ciné, mais je ne vois là qu'un engouement pour le film, et non l'oubli total du même public pour le théâtre. N'aimant pas beaucoup le ciné, je ne veux avoir à l'accuser de tuer ce que j'aime. Le théâtre, c'est la vie. Le ciné n'en est tout de même que l'image. Il est vrai que c'est bien l'image de notre époque. Il va vite et n'oblige pas à réfléchir beaucoup. En effet, si un passage est un peu plus compliqué, on nous fait voir les détails séparément d'une grandeur invraisemblable. C'est par les yeux que l'idée pénètre en nous et non par le travail de la pensée, comme nous devons le faire au théâtre si nous voulons comprendre. Il faudrait que le ciné se borne à présenter des films composés seulement pour l'écran et non à prendre ce qui a été fait pour une scène. Il faudrait des auteurs pour le ciné, comme il y en a pour le théâtre. Nous aurions ainsi des soirées agréables. Vous avez dû remarquer, Bob, que les films tirés de romans trahissent toujours la pensée de l'auteur. Le film parlant, même à 100%, ne peut tuer le théâtre. Il est vrai qu'il est à ses débuts et qu'il s'améliorera. Car pour l'instant, le résultat n'est pas heureux pour la voix humaine. Je me rappellerai longtemps la réflexion d'un enfant placé à côté de moi. Sur l'écran, deux amoureux se retrouvent, du fait de la sonorité de leurs baisers sont un peu bruyants. Et le bambin de dire « mais il va lui casser la figure !» Dans ce cas, le cinéma peut être un moyen d'éducation.
C'est la moindre de nos inquiétudes.
Vraiment, vous vous en désintéressez à ce point? On voit bien que vous faites partie de la génération appelée « stupide ».
Le théâtre est-il mort? Non, mais il végète. Le cinéma le tuera-t-il peut-être? Pourquoi le théâtre végète? Pour les raisons données par Cabri. Dans les années d'après-guerre, tout fut au mercantile. Plus encore qu'aujourd'hui, ce fut la grande détresse des artistes. On avait d'abord respecté le deuil qu'il y avait dans chaque famille. Puis les frais onéreux de scènes, de décors, de costumes avaient empêché la reprise. Avez-vous calculé ce que coûte la garde-robe d'une artiste? Il y a aussi l'infériorité, pour ne pas dire l'ineptie, de la plupart des pièces nouvelles et la médiocrité des acteurs. Ceux qui ont du talent suivent hélas le courant créé par le public pour les choses nouvelles. Il y a une variété sans cesse renouvelée au cinéma, même dans l'invraisemblance. Affaiblissement dans la masse du sentiment du beau. Sans doute, il y a de l'art au cinéma, mais d'un genre spécial. Parfois, cela devient horrible à force de réalisme. Ne croyez pas, Bob, que je me délecte dans le macabre. Non, mais je ne puis m'empêcher de vous proposer ce pari. Voyez mourir sur scène une artiste comme Sarah Bernhardt et comparer avec les affres de l'agonie étalée sur l'écran. Encore que trop souvent, on ne sait par quelle aberration stylistique on vous présente souvent une image démesurément grossie, masque grotesque de carnaval. Je sais. Je vais faire bondir l'école réaliste. Et pourtant, peut-on vraiment soutenir que le réel est toujours beau? Oh non, il y a dans la vie bien des laideurs morales et physiques. Mais n'égarons pas le débat et revenons à la question. Roméo et Juliette ont raison, Si le cinéma émeut, il ne peut faire vibrer, transporter d'enthousiasme comme le théâtre. La plus parfaite photographie ne peut donner l'idée parfaite de ce qu'elle représente, n'est-ce pas Fanny ? Ni l'animer, et c'est pourquoi je pense que le cinéma ne tuera pas le théâtre. Le danger serait que le goût du public continuât à s'égarer. Seul un groupe continuerait à être fidèle au théâtre, au clairsemé, pour que les frais généraux permettent au théâtre de subsister. Et ce serait tant pis. Le théâtre est le chef-d'œuvre lui-même, la vie. Le cinéma et son phono ne sont que des copies. Il est logique qu'un sans-souci n'ait pas la moindre inquiétude tout de même. Une indifférence aussi désinvolte pour le théâtre ou le ciné qui ont une si grande influence sur la mentalité d'un peuple et qui le reflètent si bien.
Je l'ai dit et le répète, je n'ai pas de préférence, les deux me plaisent. Quant à les voir s'entretuer, aucun de nous n'aura le plaisir ou le chagrin d'assister à un tel spectacle. Kenavo a raison, ils peuvent vivre tous les deux. Cependant, puisque le cinéma semble si peu intéresser quelques-uns, permettez-moi de me classer momentanément dans le public dont le goût s'égare. Tant pis si ce n'est pas très fort, c'est le moindre de mes soucis. Le théâtre vit depuis longtemps, le ciné par contre est naissant, et déjà il vous fait peur. C'est une preuve que vous vous intéressez à lui. Voyez-vous, à Serbe, en plus de quelques fidèles qui restent au théâtre, et dont je reconnais que vous faites partie, moi aussi, et je m'en flatte, il y a des gens très nombreux, hélas, qui y vont pour toute autre chose que l'art. Ce sont ceux qui vont là avec l'espoir d'être vus. Toilettes, postures mondaines sont leurs seules occupations. Au ciné, vous ne les voyez pas, il fait noir, on voisine avec des types en casquette. Et puis, je le déplore, à Angers, c'est sale et ça sent mauvais. Pour en revenir au sujet, ne croyez pas, à Serbe, que le théâtre c'est la vue. Vous auriez plus tard des désillusions. Quant au ciné et au phono, ce ne sont pas les copies, mais des enregistrements cinématographiques et sonores qui peuvent, avec une grande pureté, reproduire des chefs-d'œuvre. Quant à la photo animée sur l'écran d'un bel artiste, elle peut émouvoir, faire vibrer autant qu'un artiste au physique plus ou moins élégant qui se promène sur la scène devant des décors bariolés et qui n'a que sa voix pour lui. J'en reviens pour finir à reprendre les idées de Kenavo qui, sur bien des points, me plaisent. Au ciné, l'idée pénètre en nous par les yeux, tandis qu'au théâtre, le travail de la pensée est en jeu. Reste à savoir si le même résultat est atteint. Pour ma part, je le crois.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur.
Les blogueurs de la Tribune Libre s'interrogent également sur le concept de la poésie pure.
Oui.
Poésie pure, mot parfois profané. En effet, certains poètes prétendent faire de la poésie pure en écrivant des espèces de strophes dont le sens est plus ou moins nuageux. Mais ne comprenez-vous pas qu'ils désirent se faire apprécier de l'élite ? Non, de cette plèbe, de ces parias, qui n'ont certes point d'âme, sans doute, pour comprendre et sentir. À mon avis, la poésie pure est l'expression spontanée de sentiments, un jet qui bondit de l'âme, traduit en termes simples, évocateurs, mais compréhensibles. Et ces poésies, Lac, Villequier, Nuit de mai, qui vont droit au cœur de celui qui les lit, n'est-ce pas des modèles de poésie pure ?
Qui a posé cette question a oublié d'éclairer sa lanterne.
Poésie pure, quoi ? La question est dure pour moi. Poésie pure, sentiment pur, l'air, le ciel bleu, la belle nature, promenade en barque au clair de lune, allée de roses, chant fleuri, rossignol chantant la nuit.
Fanny, vous vous égarez quand vous parlez
de termes simples et évocateurs pour définir la poésie pure. On est porté à aimer un langage qu'on peut goûter sans trop y penser. Quoi de plus précieux que l'illusion délicieuse de la clarté qui nous donne le sentiment de nous enrichir sans effort? Paul Valéry est le poète dont, à mon point de vue, les ouvrages pensent en général se parer de la mention « poésie pure ». Il recherche la clarté, quoi qu'on dise souvent de lui qu'il est obscur. Que pensez-vous, Fanny, de ce vers de Hugo ? Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. Comment définir ce vers ? Sont-ce là des termes clairs et précis ? Valéry s'accorde le droit d'être musical. La poésie pure est celle qui recherche la vérité, la précision, qui recommence toute recherche et s'impose un doute méthodique. Hugo, Lamartine, Vigny, Musset nous ôtent le poids de la pensée et tissent un lumineux déguisement de la complexité des choses.
J'épouse entièrement le point de vue de Moustique.
Trop subtil, déclarons forfait.
Ami mécano, je t'assure comme ton auto sans surmenage. Ta poésie deviendra pure après la période de rodage.
Poésie pure, recherche d'un idéal d'expression comparable à la musique, création d'une source d'émotions nouvelles et difficiles, hors des sentiers battus, scrupuleuse recherche du terme exact.
Étant donné que ce sujet sublime et grandiose tient à cœur à tous les gens de bonne et parfaite éducation, et que les dites personnes sont terriblement émues de cette pénurie dans laquelle se débat cette poésie si chaste et si pure, et que aucun chef-d'œuvre n'est advenu depuis l'épanouissement des Fleurs du Mal, du génial poète Baudelaire, à l'âme si délicate qu'on puisse y porter des remèdes suivants. 10 heures de suite par jour de poésie pure dans les établissements d'enseignement secondaire, fait sous la haute et intelligente direction de M. Paul Valéry, avec la clairvoyante collaboration du citoyen Claudel. Deuxièmement, proposer de nouveaux impôts à nos parlementaires pour la création d'une caisse destinée à récompenser la meilleure épopée des enfants de moins de 15 ans. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'on m'accuse de n'avoir pas encore donné mon appréciation. Je crois que la politesse la plus élémentaire exige de ne pas imposer brutalement et ostensiblement son opinion. André Billy m'a ayant assuré que les jeunes se moquaient des problèmes d'art, j'ai simplement voulu me rendre compte de ces dires. L'épreuve a été fort concluante et à la gloire, j'ose le déplorer, de notre critique. Poésie pure ? Est-ce une question à soumettre à une génération rendue presque stupide par le sport, le jazz et le cinéma ? Il est facile de répondre par l'ironie maniée d'ailleurs avec plus ou moins de bonheur et de tact. Il est facile de traiter les symbolistes de fous et Mallarmé et Valéry, pour ne citer que les plus grands, de poètes pour snobs. Pour l'élite, le mot le plus stupide peut-être de notre langue bourgeoise. Je ne sais si celui ou celle qui me tient grief de mon silence est poète. J'en doute fort, car il se montrerait, je le crois, un peu plus indulgent pour les balayeurs de voies lactées que nous sommes. Deux mots ne vous suffisent pas ? Je comprends alors que vous ne goûtiez guère la concision, un peu exagérée, il est vrai, d'un Valéry. On se plaint dans toutes les revues du recul de la poésie. Quelques pages de ce journal en expliquent plus que tous les discours et les écrits du monde. Je comprends maintenant pourquoi certains n'ont pas saisi ou affecté de ne pas saisir le titre de cette question. Peut-être pensaient-ils que la poésie n'existait plus. Il est de meilleur ton de parler d'un Maurice Chevalier, d'un Cochet ou autres grands hommes de notre temps que d'évoquer les images si chères d'un Paul Verlaine, d'un Samain, d'un Verhaeren. Ils sont à plaindre tous ceux qui ignorent les rêves innombrables dormant au fond des œuvres de nos plus chers poètes. c'est en écoutant l'inflexion des voix chères qui se sont tues que nous revivrons pour les luttes qui s'apprêtent. Sans idéal, le monde n'est qu'illusion. La vie une ignominie, car elle n'a plus de but. Et quel gouffre ouvrez-vous derrière elle ? La poésie pure n'est pas, ne peut pas être une réalité. On tend vers elle, on ne l'atteindra jamais. Jaillit des sources les plus secrètes de la sensibilité de l'artiste, elle tend par le jeu de ses sonorités, par le rythme de ses strophes, à créer cet enchantement, ce charme qui doit transporter l'âme dans d'autres régions, inaccessibles au regard ferme et, j'ose le dire, lucide de la conscience normale. Seulement, si elle devenait pure, c'est-à-dire divine, la poésie cesserait d'exister, car elle ne serait plus humaine. Or, être poète, c'est avant tout être homme, se pencher sur la détresse, la grande pitié des miséricordieux, pour leur apporter la grande consolation de l'art. Aussi, je crois que la véritable poésie pure est celle qui fait entrevoir à l'homme, le plus humble soit-il, qu'il est appelé à d'autres joies, à d'autres espérances, à d'autres existences que celles dont il croyait jouir, et qui n'étaient au fond que des fantômes, de folles apparences de la véritable et seule vie humaine.
Je suis surprise du jugement sévère que vous portez sur les jeunes, et en particulier sur ceux de la tribune. Vous semblez croire qu'il n'y a plus aucun idéal entre eux. Je suis avec vous pour reconnaître et déplorer le matérialisme de notre époque. Mais ne croyez-vous pas que ce n'est pas tout à fait de la faute aux jeunes ? Jeunes ? Ils l'étaient en effet, trop pendant la guerre pour comprendre les admirables élans d'alors. Ils n'ont bien connu que l'après-guerre et cette soif de vivre et de jouir de ce moment-là. Où voulez-vous qu'ils trouvent de la poésie ? Mais je suis sûre qu'ils ne se contenteront pas de cette vie médiocre et qu'eux aussi s'élèveront. Car, comme vous, je dis que la vie ne serait pas possible si nous ne faisions pas un idéal. Dans votre exposé, il me semble que vous parlez de la poésie en général et pas seulement de la poésie pure. Je vous fais cette remarque car je n'aurais pas mis Verlaine parmi les poètes purs. D'ailleurs, de vous-même, vous les appelez purs poètes et c'est bien mieux ainsi. Je considère la poésie comme le reflet des sentiments, de nos impressions, de tout ce qui est inachevé en notre âme et que nous aimons retrouver sous une forme élevée dans un poème. Et quoi que vous disiez, il y en a encore beaucoup à pouvoir ressentir la beauté de la poésie. Vous semblez désirer la poésie pour tous, mais je crois que pour atteindre ce but, il faut que celle-ci soit éminente. Des poètes comme Mallarmé sont trop au-dessus de la vie pour pouvoir aspirer à la compréhension générale. On peut aimer la poésie pure et la poésie plus générale, comme Verlaine, pour n'en tenir qu'à ceux que vous citez. Ils ont compris, comme d'ailleurs l'a si bien dit Rostand, le cœur humain ne peut-il pas contenir toute la poésie ?
Non, vraiment. Dans une si belle envolée pour la poésie pure, laissez chaque balayeur de voie lactée, votre André Billy avec sa femme maquillée. Quant à Verlaine et sa main, bien que faisant partie de la génération qualifiée par vous de stupide, j'ai appris à les goûter, et je les aime. Mais l'idée ne me serait pas venue de les appeler poètes purs.
Vous avez en effet besoin de toute notre indulgence pour vos balayages, vos stupides et autres trouvailles de votre dernier communiqué. Sachez cependant qu'elle vous est acquise en raison de l'élévation et du sublime de votre pensée.
Yo ! MC Platon.
Attends, t'es sûr de ce qu'on fait là ?
Franchement, non, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Hein.
Ouais, enfin bon, c'est pas en 3 minutes qu'on va leur apprendre à développer une pensée philosophique.
Non mais je sais, c'est pas l'idée, l'idée c'est plutôt d'aider les révisions quoi. Et puis si y a quelqu'un qui a rien écouté de l'année, bah il chope 2-3 citations et tout le monde est content.
Mais t'as un texte là déjà ?
Je me lance, tu me dis ce que t'en penses.
Yo la clique, moi c'est Platon, je représente la Grèce antique. Entre la sagesse et moi, c'est pas un amour platonique. Mes sujets de prédilection, la vérité, la raison. Si tu veux connaître la suite, pas besoin de mater les autres saisons. On peut résumer ma pensée sur un ticket de métro. Je ne sais qu'une chose, je ne sais rien. Pour certains, c'est déjà trop. Comme ceux qui préfèrent à l'école, à la taverne. À qui je voudrais expliquer l'allégorie de la caverne.
rien. On vit sans le savoir dans une grotte aux parois sombres. Devant nous, des ombres denses. Nous pensons que c'est le monde. La vérité se dérobe à nos yeux comme à nos oreilles. Faudrait sortir.
Et voici la dernière question de cette émission. L'art doit-il s'adresser à la masse ou à quelques initiés? Y a-t-il un idéal d'art qui survive aux civilisations, aux écoles, au snobisme?
Comme je ne serai pas dans ces heureux initiés, je le réclame pour la masse. Il est certain cependant que celle-ci peut lui faire subir bien des affronts et des contrefaçons. Mais c'est alors aux initiés qu'il revient de le défendre et de guider le goût de l'ignorant qui peut se laisser tromper par des apparences grossières. L'idéal de l'art qui est, ce me semble, l'amour de la beauté, peut et doit survivre aux civilisations, aux écoles, au snobisme. Peut-être même que, loin de lui nuire, ces différentes tendances le rendent plus éclectique, plus complet. Il ne s'agit pas, bien entendu, de certaines vogues ridicules ou rococo qui ne peuvent prétendre être de l'art.
Pour comprendre et aimer les arts, il faut des connaissances variées et étendues que la masse ne possède pas. Mais on devrait donner, dès le bas âge, le goût du beau pour que, plus tard, chacun puisse mettre un peu de poésie dans la vie monotone. Ce ne serait peut-être pas de l'art pur, mais cela en serait tout au moins une des formes. Ce serait tellement à désirer que tout le monde puisse profiter des joies intenses que donnent toutes les manifestations de l'art. Ne pourrait-on pas, pour aider la majorité à comprendre les trésors que nous possédons en France, obliger les guides à ne pas donner des explications trouvées uniquement dans leur imagination? Il ne faut négliger aucun genre d'éducation artistique. Si l'idéal dans l'art ne survivait pas, nous n'éprouverions pas cette joie profonde à contempler les œuvres des artistes disparus depuis si longtemps. Si nous sommes encore émus, c'est que nous sentons la pensée supérieure qui anime le chef-d'œuvre, que ce soit sculpture, peinture, poésie, etc. Chaque époque apporte ses idées nouvelles, ses modes, mais il y aura toujours des artistes qui dégageront de tout cela de la beauté et qui s'en feront un idéal. Et c'est justement cet idéal qui, s'élevant au-dessus des exigences matérielles, survivra malgré tout.
Ce qu'il faut avant tout, c'est que les heureux initiés aident la masse à comprendre l'art véritable et fassent son éducation par conférences, articles dans les journaux, etc. Il serait à souhaiter également que parents et professeurs apprennent davantage aux enfants à apprécier les beautés du passé et du présent. La première empreinte étant ineffaçable, les hommes garderaient toute leur vie l'amour du beau. La première question n'aurait donc plus à être posée. Cet idéal d'art qu'est la beauté se dégage et croît au milieu des civilisations, des écoles et du snobisme. Les exagérations fatales à chaque école tombent peu à peu, et de ces exagérations même s'élève l'art qui persiste et grandit.
Question trop élevée pour une linotte. Elle se contente d'admirer la réponse de Quenavo.
L'art, à part quelques exceptions, peut, à mon avis, s'adresser à la masse. Parfois, l'amour du beau est quelquefois plus développé dans l'âme des humbles, par conséquent, pas initiés. Et cet amour qu'ils expriment en termes naïfs et spontanés est plus simple et plus naturel, pourrait-on dire, que celui de certains qui veulent avoir l'air long. Heureusement, l'idéal de l'art survit aux civilisations, aux écoles, au snobisme. Les œuvres d'art dignes d'être appelées ainsi font preuve de leur génie en survivant à leur temps et en restant dans la mémoire de la postérité.
L'idéal d'art, n'est-ce pas tout simplement le culte du beau qui survit évidemment au code et au snobisme? L'art s'adresse à la masse parce que parmi les plus humbles et les moins cultivés, il en existe cependant qui goûtent le beau dont l'art est l'expression. Bien plus certainement que certains critiques d'art.
Je ne suis initié que dans mon métier. Il me semble qu'il n'y a pas d'idéal d'art. Il y a l'art tout court. J'admire les cathédrales. Elles sont faites avec un art qui remplit d'enthousiasme l'élite et la masse. À chacun sa façon. Voilà un art qui survivra. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet qui remplit de ferveur.
L'art peut s'adresser à la masse, chacun porte en soi des cordes susceptibles de vibrer au contact du beau. Cependant, les initiés peuvent goûter toutes les joies qu'ils procurent, et l'art ne peut être somme de joie que pour celui qui vit pour lui.
L'art ? Faut-il donc faire partie de l'élite pour être sensible à la grâce et à la beauté ? Il faut, je pense, développer l'amour des arts chez les uns comme chez les autres. Beaucoup de nos grands maîtres ne sont-ils pas sortis de cette masse ?
L'art s'adresse aussi bien à la masse qu'à l'élite, mais l'une et l'autre se comprennent plus ou moins à leur manière. Les écoles d'art se succèdent et évoluent suivant les temps et les civilisations, mais toutes tendent vers un même but, l'idéal de l'art. Tant que l'homme vivra, son imagination lui fera entrevoir un idéal de l'art comme une perfection vers laquelle il aspirera. Suivant l'école à laquelle il appartiendra, il le verra sous un angle différent, mais jamais ne disparaîtra. L'idéal de l'art n'est-il pas, allégoriquement parlant, le point de jonction à l'infini de toutes les parallèles formées par les écoles d'art ?
Pourquoi l'art serait-il monopolisé par quelques initiés ou des chapelles particulières ? L'art, avec un grand A, est et doit être le lot de tous. Il doit donc s'adresser à la masse. Il est évident qu'il faut faire un peu l'éducation artistique du peuple, qui est fort susceptible d'y répondre. Les ouvriers d'art sont parfaitement susceptibles de comprendre la beauté des œuvres qu'ils sont chargés d'exécuter.
Il n'est pas donné à tout le monde de devenir ou d'être né artiste, soit en peinture, sculpture, ou d'être poète, musicien, etc. S'il est permis à toute la masse d'aspirer à toutes les tranches de l'art, seuls ceux qui ont des dispositions naturelles, des dons, pourront réussir. Les autres risqueraient de tomber dans le ridicule ou de réussir que très médiocrement.
L'idéal de l'art n'est-il pas l'amour du beau ? C'est un don qui ne s'acquiert pas, mais qui est inné en soi. Il se trouve dans toutes les classes de la société. Mais oui, l'idéal de l'art survit, puisque depuis des siècles, nous continuons à l'admirer dans l'œuvre de nos artistes, avec un enthousiasme et une ferveur à jamais démentie, malgré les progrès du modernisme qui tente à s'imposer à nous de plus en plus.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur.
Au terme de ces débats parfois animés, certains nous paraîtront peut-être dépassés, surannés dans leur forme, mais aussi sincères et engagés. Ils reflètent certes une mentalité, un milieu social, ils ont le mérite d'exister et d'avoir été conservés dans ce cahier, écrit à plusieurs voix. La radio leur permet une seconde vie. Vous avez entendu Annie, Anne, Yvan, Guylaine, Paul, Monique et Dominique, qui prêtaient leur voix à Miquette, Acerbe, Flimax, Feu Follet et autres personnages. Les intermèdes musicaux sont des musiques de films des années 30, les chansons des années 30 comme « La guinguette a fermé ses volets », celle de Trenet « Longtemps après que les poètes ont disparu », les voix de Sacha Guitry et celle de Sarah Bernard, ainsi qu'un rap philo.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
« Radio G, 101.5 FM.
You can sleep, walk back and find me. Another symphony in session. Walk in today for all the people. Behind me, is it not my right when to breathe to my own guilt? It's so hard anyway.
Parmi les digitales
seul. Comme des nuées, quelque chose mille sauterelle. Les jours et les jours se sont rués. Une ruine sous une pluie fine. Parmi les digitales. Sentimental.
Radio G 101.5 FM.